distribution en fin de journée, j'imagine. Non, pas du tout, en fait. Non, mais voilà, bah, alors raconte-moi. Non, non, j'imaginais ça en fin de journée parce que j'ai déjà vu des choses comme ça où ça se passait. En fait, à la fin de la journée, les gens venaient faire leurs courses, quoi.
Alors déjà, avant la distribution, déjà, ça se prévoit sur 2 mois à l'avance, quasiment. Donc la date de la distribution est prévue. 1 mois avant la distribution, on a prévu déjà de clôturer le tableau, c'est-à-dire que le tableau soit fini. Comme ça, il y a 1 mois pour les référents, pour commander les produits et les récupérer. Donc 1 mois avant, c'est l'appel au producteur. Une semaine avant encore, donc 1 mois, une semaine avant, on clôture le tableau. Donc c'est-à-dire que chacun note, on vérifie, on recontrôle, on re-recontrôle que tout est bon. Donc voilà, ça prend pas mal de temps. Et le jour J, lorsque tous les référents ont validé que tous les produits étaient arrivés, ils viennent à 10h le matin à l'endroit de la distribution.
Alors c'est pas un jour de semaine, c'est ça?
Non, c'est un dimanche. On essaie de le faire le dimanche lorsque tout le monde, le maximum de personnes est disponible. Et on évite, par expérience, on évite de le faire en juillet et en août parce qu'on a trop d'absents. Donc le dimanche matin à 10h, les référents arrivent avec les produits. On met en place les tables. Donc il y a les deux personnes qui s'occupent de gérer la distribution qui sont là aussi pour mettre en place toutes les tables. Les personnes du tableau qui ont imprimé les listes des produits et des participants dispatchent tout ça sur toutes les tables. Donc chaque table a la liste des produits de chaque membre. À 10h30, tout le monde arrive et après chacun trouve un poste. Alors ça se fait tout seul, on échange, on discute. Il y en a qui discutent plus, qui aident, mais c'est pas grave, on est dans la convivialité. Il y a deux personnes souvent derrière une balance, chacun se répartit les produits secs, les produits liquides, les produits, les farines, enfin voilà. Et après, en 1 heure, c'est tout distribué. Et après, ça se passe très très bien. Mais il faut un peu d'organisation. Voilà. Si c'est bien organisé, il n'y a aucun couac et ça se passe très très bien.
Alors, est-ce que justement, vous avez créé une charte comme ça? Je sais que Savez Climat a fait une charte avec des valeurs, des principes. Est-ce que vous aussi, pour réussir votre... Alors, ça, autant les postes à pourvoir, ça c'est vraiment tout gros bon d'achat, n'y coupe pas, c'est comme ça que ça doit se passer. Les chartes, évidemment, ça peut évoluer d'un endroit à un autre selon les envies et les énergies en place. Vous avez choisi quoi comme valeur pour travailler?
Bon, alors venant de Savez Climat, on est parti sur la même base. On a 6 points capitaux sur cette charte. Le premier est la bienveillance, hein. Il faut tout le temps que les distributions, que le groupement d'achat reste constamment dans la bienveillance parce que autrement ça ne pourra pas perdurer. La légitimité, c'est-à-dire que chaque membre est autant légitime que l'ensemble des autres membres. On a vraiment une gestion horizontale. Il n'y a pas de président et d'autres personnes qui seraient au-dessus des autres. La transparence, il n'y a rien n'est caché, tout est accessible. Comme je disais tout à l'heure, tous les documents sont sur un drive, tout est consultable. Voilà, tout est vraiment transparent et transmis à chaque membre. La participation, on ne peut pas venir au groupement d'achat si on ne participe pas. On n'est pas un magasin, c'est que du bénévolat, c'est chaque membre, même une petite participation. On a des gens qui ne se sentaient pas de gérer un producteur par exemple, et on a des personnes qui vont juste qui se proposent de donner un coup de main, d'aller chercher par exemple des produits. Si on ne peut pas aller chercher, récupérer les produits chez le producteur, cette personne se propose d'y aller à notre place. Donc voilà, chacun participe. Le respect du vivant et la limitation au maximum des gaz à effet de serre, ça découle directement de Savez Climat aussi.
Alors le respect du vivant, tu peux m'expliquer comment un groupement d'achat agit sur le respect du vivant?
Et ben, tout simplement en prenant des produits chez des agriculteurs qui travaillent en biologique et qui ont une agriculture raisonnée et qui essaient au mieux de privilégier le vivant, quoi, tout simplement. Voilà.
D'accord, oui, donc c'est plus le respect du vivant, c'est plus une charte que vous allez chercher chez le producteur que vous demandez au consommateur.
Tout à fait. Chaque producteur a un questionnaire, doit vraiment remplir les critères du groupement. Si, voilà, on a mis en place un petit questionnaire et la personne qui va gérer un nouveau producteur, je dis gérer, c'est pas le bon mot, qui va faire l'intermédiaire entre le groupement d'achat et le producteur, doit d'abord vérifier que le producteur coche toutes les cases de notre questionnaire.
C'est quoi, grosso modo, parce que c'est vrai qu'on en a déjà parlé, mais je voulais te poser la question. Quelles sont un petit peu les questions que vous posez au producteur?
Bah, déjà, est-ce qu'il a un label bio ou pas? Alors, c'est pas parce qu'il n'a pas de label bio qu'on va le refuser, mais on veut savoir comment il travaille. Est-ce qu'il travaille avec des intrants ou pas? Est-ce que quel personnel il emploie? Est-ce qu'il emploie juste il y a des producteurs par exemple qui prennent des personnes saisonnières qui viennent de Pologne ou enfin je dis Pologne ou des pays de l'Est ou quoi? Bah ça non, ça on ne veut pas. Est-ce que voilà comment travaille le producteur et est-ce qu'il correspond aux valeurs du groupement qu'on a mis en place? Et la dernière,
Alors on repart sur
voilà.
sur les valeurs du groupement d'achat en lui-même.
Voilà, et donc la dernière, ça on l'a bien compris, je l'ai répété plusieurs fois, la dernière valeur, c'est la convivialité. On s'est interdit de faire des réunions s'il n'y avait pas un moment de convivialité à la fin, parce qu'on veut rester un groupe, on veut rester un collectif, et qui dit collectif dit forcément, bah, après avoir fait des réunions, après avoir fait une distribution, il faut discuter, il faut échanger, il faut passer un bon moment justement pour fédérer le groupe, quoi.
Et ça marche.
Et ça marche super bien.
Et donc c'est le dimanche matin, donc à midi, c'est cet apéro avant d'aller déjeuner, quoi.
Voilà, c'est exactement ça. On commence à 10h30, comme ça, entre 11h30 et midi, généralement, c'est fini, tout est rangé, tout est nettoyé, et après, on peut discuter et refaire le monde pendant 1 heure, quoi.
Et empiéter sur le déjeuner qui devient du coup un petit peu à l'heure espagnole, qui n'est pas si loin de la Gascogne. Ici, on voit les Pyrénées, l'Espagne n'est finalement que de l'autre côté. Bah écoute, on arrive au terme de cette émission, Guillaume, je te remercie. Un dernier conseil, je sais pas, pour les auditeurs qui voudraient se lancer alors qui voudraient venir si nous entendent, s'ils veulent venir s'installer ici dans le Savès ou s'ils y habitent, comment vous trouvez?
Simplement sur le site de Savès Climat, il y a toutes les informations. Et après, à Saint-Matan, on est ouvert à tout le monde. Il n'y a aucune restriction si on a de la bonne humeur et qu'on veut participer. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut participer. Et c'est fabuleux. Et un petit conseil pour ceux qui veulent se monter en groupement, il faut uniquement de l'organisation, de l'envie et des apéros, quoi. Au
Parfait. Merci beaucoup, Guillaume. Au revoir.
revoir, Nicolas.
L'ours et la carotte est écoutable sur Internet. À la semaine prochaine.
À travers la voix de la chanteuse Tita, c'est l'âme d'une Gabonaise des forêts qui se dessine, où tradition et culture vibrent, bercée par les rythmes, les chants et les mélodies. Ici, la musique n'est pas seulement un art, elle est l'âme même du Gabon.
Je m'appelle Tita Nzebi, je suis chanteuse. Et aujourd'hui, je vous emmène au Gabon, mon pays que j'aime tant, et j'espère que le voyage vous plaira. Le Gabon, c'est un pays de forêt, pas la petite forêt, la très grande forêt équatoriale. Moi, je suis née sous les arbres, sous les grands arbres. Dans les pays, dans les paysages montagneux comme chez moi, enfin, pas la montagne comme les Alpes ici. Hein, quand vous vous réveillez à 4-5 heures du matin, vous êtes dans un brouillard que vous pouvez vraiment couper au couteau. Si une personne arrive en face de vous à 10 mètres, vous ne voyez pas la personne. Et vers 7-8 heures, le brouillard commence à disparaître et à venir le soleil. Ça, je parle juste de l'endroit où je suis, Nibigou, et tous les villages qui sont comme ça dans ce genre de paysage, parce que nous avons aussi des plaines, nous avons aussi des paysages de mer, et c'est un pays donc de forêt, c'est l'un des poumons du monde. On parle beaucoup d'oxygène actuellement. Nous avons une très, très forte concentration. Et nous avons l'une des plus grandes concentrations d'éléphants au monde. Il y a beaucoup d'éléphants. Vous pouvez voyager, faire la route et rencontrer. Moi, j'en ai vu, j'ai voyagé, j'ai rencontré un jour deux familles d'éléphants, juste en passant comme ça en voiture, et les éléphants passent juste à côté de vous. Nous avons une faune très, très riche, ce serait vraiment, ça nécessiterait plus qu'une émission pour vous parler de la faune et de la flore gabonaise. C'est tellement, tellement, tellement riche. Nous avons une plante qui ne pousse qu'au Gabon, une plante, je pense qu'on appelle ça une plante endogène, qui est le liboga. Et l'iboga ne pousse qu'au Gabon, et c'est une plante qui est utilisée dans un rite qui fait office aujourd'hui d'un peu de religion nationale qu'on appelle Obiti. C'est une plante que les gens consomment pour faire des initiations. Ça vous permet, selon les initiés, de rentrer à l'intérieur de vous et de faire un voyage astral. Et au-delà de cette utilisation rituelle que nous avons au Gabon, le monde a découvert que l'utilisation de l'iboga peut aider à soigner de la toxicomanie. Donc, il y a beaucoup de scientifiques dans le monde entier qui vont actuellement au Gabon pour essayer de travailler avec cette plante iboga. Donc, ça, c'est pour une spécificité gabonaise qui peut être utile au monde. En termes de culture, le Gabon a produit les masques qui ont inspiré des peintres français qui aujourd'hui se vendent très, très cher dans les salons de vente à Drouet, etc. Il y a donc les masques Pounou. Les amateurs d'art en ont certainement entendu parler. Ça a été l'un des masques les plus chers au monde. Ça vient du Gabon. Actuellement, on parle beaucoup du masque Nguil. Et les amateurs d'art ont certainement entendu parler du tableau de Picasso, Les Demoiselles d'Avignon. Ce tableau a été inspiré par des masques du Gabon, cette fois des masques Kota. Ça, c'est juste pour vous parler de la richesse culturelle du Gabon qui rayonne dans le monde entier depuis des siècles déjà. Et moi, j'apporte donc un peu de cette richesse culturelle parce que moi je chante en langue zébi et des chants typiquement du Gabon. Et là encore, sur ce plan-là de la musique, nous sommes un petit pays d'à peine 2 millions d'habitants. Nous parlons 50 langues, il y a donc une cinquantaine d'ethnies au Gabon. Et chaque ethnie a une richesse culturelle qui lui est propre. Et moi j'ai voulu sauvegarder un peu de la culture zébi parce que de toutes les façons, on ne chante que ce qu'on est. Donc moi, je ne peux vous apporter que la musique Nzébi parce que je suis Nzébi. Mais si vous allez au Gabon, vous pouvez vous amuser à faire une géographie du Gabon à travers toutes les chansons que vous allez entendre parce que chaque ethnie a quelque chose de très, très différent. Alors, vu de l'extérieur, peut-être que vous n'allez pas pouvoir sentir la subtilité parce que tout le monde appelle ça de la musique africaine. Mais en fait, moi qui suis du pays, moi, je peux vous dire que ça, c'est pas de chez moi, ça, c'est pas de chez moi, ça, c'est pas de chez moi. Et vous parlez, on peut partir comme ça pendant toute une journée avec ça, c'est pas la musique de chez moi, ça, c'est pas la musique de chez moi et vous expliquer chaque les différences qu'il y a entre les différentes chansons que vous attendez. Et même au niveau de nos voix, nous ne chantons pas de la même façon selon la langue que nous parlons. Alors, qu'est-ce que nous mangeons? Nous mangeons des feuilles de manioc. Tous les Gabonais mangent ça. Et au-delà même, au Congo, tout le monde mange les feuilles de manioc chez les Bantous. Chez d'autres peuples qui sont voisins à nous, c'est plus la banane, c'est plus les taros, parce que nous avons beaucoup de racines comme ça que nous mangeons. Et nous mangeons de la viande, de brousse, qu'on appelle ici le gibier. Mais on mange plus beaucoup de légumes. Hein. On mange vraiment. Si des gens qui ne mangent que végétariens, si vous allez à Bigou, vous n'allez jamais mourir de faim. Parce que les végétaux, on les mange tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En tout cas, la nourriture gabonaise, elle est très, 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 très bonne. Enfin, pour moi qui suis gabonaise, je suis désolée. Je pense que chaque enfant dira que la nourriture de chez lui est la meilleure. Donc, je suis comme tous les enfants du monde. Je suis une fille de la forêt, une fille du village. Je ne suis pas née en zone urbaine. Moi, j'ai grandi dans un village. Et là, vraiment, la communauté est très, très importante. Et j'explique toujours cette chose chez nous. La parentalité est mixte. On est père et mère, peu importe notre genre. Moi, je suis la mère des enfants de mes sœurs et je suis le père des enfants de mes frères. C'est ça les structures, la parentalité chez nous, elle est comme ça. Et elle dépasse le cadre familial parce que nous avons aussi des clans. Donc, moi aussi, je suis la mère de toutes les femmes, toutes mes sœurs de mon clan. Qu'on soit de la même famille, ça n'a aucune importance. Et d'ailleurs, il y a un proverbe chez nous qui dit que le clan n'a pas de frontières. Donc, si un jour, moi, je viens ici et on me dit qu'il y a, une femme de mon clan qui vient du Pays basque, eh bien, c'est ma sœur. Elle est peut-être basque. Moi, je suis de Migou, mais on est sœurs de par nos clans. Le clan chez nous n'a pas de frontières. Ça dépasse le territoire. Le territoire n'a rien à voir. C'est votre naissance, c'est votre ancêtre commun. Ce sont les liens que vous avez créés à travers les mariages et tout ça qui créent la parenté chez nous. Pas tellement l'endroit où vous êtes né. Et ça, c'est une notion de la parentalité et même de l'humanité que j'aime beaucoup chez nous, les Zébis, qu'on se retrouve être membre de plusieurs familles en même temps. En fait. Il y a des responsabilités. Moi, naturellement, je n'étais pas d'enfant. Mais on m'appelle maman depuis que je suis enfant. Depuis que ma première sœur a fait son enfant, qui a grandi chez nous, cet enfant, d'ailleurs, elle me le rappelle toujours, elle me dit, tu sais, mais moi, je suis ta première fille. On a 4 ans de différence, mais je suis sa maman. Et on a gardé ce lien-là, c'est vraiment ma fille. Donc, dès quand j'avais 9 ans déjà, ma maman me disait, tu ne peux pas jouer parce qu'on a grandi ensemble, on était enfants au même moment. Mais quand j'essayais de faire des jeux d'enfants avec elle, ma mère me disait, non, tu ne peux pas t'amuser avec elle, tu es sa mère. Et j'ai payé des loyers ici à l'enfant de la fille de ma sœur qui est venue étudier en France. Moi, j'ai pris la responsabilité de cet enfant-là. Donc, pendant 4 ans de ma vie, je me suis ruinée à payer le loyer d'une étudiante parce que c'est ma fille. Je ne peux pas me dérober. Elle n'avait pas ce problème-là parce que maman Tita était là et maman Tita a géré. J'ai bien galéré. C'était très cher, mais je ne pouvais pas me défiler parce que c'est mon enfant. Par le mariage chez nous, quand on va épouser une femme, c'est toute la une famille qui va épouser une femme. Donc, les enfants qui vont naître, si par exemple mon frère arrive à décéder, par exemple, ben, sa veuve, c'est à nous de nous en occuper. C'est notre femme. Donc, on ne la laisse pas. On va lui faire ses chants, on va, et à sa mort, nous allons l'enterrer, même si son mari n'est plus là. En principe, hein, après, je ne vous dis pas que les gens se comportent toujours comme ça. Les Nzébis sont comme tous les humains. On a tous des lois qui sont magnifiques, mais après, personne ne les respecte. Mais en principe, c'est ça. Là, c'est ma façon d'être, c'est qui je suis, c'est comme ça que j'ai grandi. Alors, les moments importants, déjà la naissance. Quand un enfant naît, un bébé naît, on va le garder plusieurs semaines à l'intérieur de la maison, il ne sort pas. Quand le cordon ombilical est tombé et que le nombril a totalement cicatrisé, je pense que c'est à ce moment-là qu'on va faire une cérémonie. Mais la cérémonie ne s'étend pas à toute la communauté. La cérémonie reste au niveau de la maisonnée et peut-être de certaines personnes de la même famille qui sont dans le village. Donc, il y a quelqu'un qui va venir et on va faire ce que nous, les Zébis, appellent chachamble. On va se lever tôt le matin, donc entre 4-5 heures du matin, et on va sortir avec le bébé. La veille, on aura préparé une bassine d'eau à l'intérieur de laquelle on aurait mis des écorces, des feuilles. On aura mis ça dans une eau très propre, très claire. Ça aura trempé toute la nuit et on va aller faire le chachamble au bébé. C'est quand même à thème. Et chacun va prendre des feuilles et va arroser le bébé. Et on va faire des vœux. C'est que des choses positives que chacun va venir souhaiter au bébé. Et vous allez l'arroser en disant « chachamble ». Et tout le monde va répondre « chachamble ». Et on va passer comme ça à tour de rôle. Et on arrose le bébé, on fait « chachamble ».« Chachamble ». Maintenant, on ne fait plus ça parce qu'on n'a pas transmis. Moi, je ne sais pas faire ça. Je ne pourrais pas faire un chachamble à un bébé parce qu'on ne m'a pas montré comment on fait. Il y a peut-être des gens qui savent encore faire ça. Et avec la vie dans les villes et tout ça, il y a des choses qui ne se font plus parce qu'on ne vit plus de la même façon. Moi, j'ai vu ma mère aussi, les cordons ombilicales des enfants. Et ça ne se jette pas n'importe comment. Quand le cordon ombilical d'un bébé est tombé, on le prend et on va le planter en général sous un arbre. Donc moi, mon cordon a été planté quelque part. Et c'est ce qui nous lie, par exemple, à certaines terres. Et une fois que le bébé est sorti, pour les garçons, à la préadolescence, je pense, ils vont faire la circoncision. Parce que nous, on circoncie. Et la circoncision, c'est aussi un rituel. Ça commence pendant de longues semaines, on va l'emmener, on va le sortir de chez lui, on va faire des chants, des danses, on va lui faire une grande fête pour lui signifier qu'il n'est plus un petit garçon. Il y a aussi des initiations chez les filles, mais chez nous, il n'y a pas de mutilation. Chez les peuples du Gabon, il n'y a pas de mutilation chez nous. Il y a juste un moment où les filles, mais moi, je ne peux pas vous en parler parce que moi, je n'ai pas été initiée, donc je ne peux pas vous parler, mais il y a des initiations pour les jeunes filles aussi. dans certaines familles. Et les initiations chez nous ne sont pas obligatoires, c'est la famille qui décide. Moi, mon père en parlait par exemple parce que pour lui, il y avait des choses pas très correctes qui se faisaient dans les initiations parce que c'est très secret. Et moi, je sais qu'il y a des gens pendant la colonisation, par exemple, dans certains pays, qui sortaient de leur village pour aller en ville parce qu'ils fuyaient justement les initiations parce que c'était trop violent. Donc, c'est ça un peu le lien à tout ce qui est spirituel. La spiritualité, c'est ça, elle est libre. Votre esprit est lié à tous ceux qui vous ont précédé. Donc, il faut que toutes ces personnes-là soient là au moment où on vous initie. Vous ne pouvez pas aller vous initier. Après, chacun peut faire comme il a envie. Chez nous, l'étape de l'adolescence qu'il y a ici, dans nos cultures, ça n'existe pas. On passe directement de l'enfance au monde adulte. Donc, à partir de là, après, une fois qu'on atteint l'âge du mariage, ben, traditionnellement, ben, vous vous mariez, on vous organise votre mariage, et le mariage, c'est encore là, c'est des familles qui se déplacent, il y a la dot chez nous, il y a des rencontres, chez nous, c'est plusieurs étapes. Et si vous êtes en âge de vous marier, le père peut venir voir vos parents et dire, j'aimerais épouser votre fille. Il faut l'accord des parents. J'aimerais épouser votre fille pour mon enfant. Et les enfants vont se rencontrer. Et donc, il y a une phase chez les Nzébi où la jeune fille va, par exemple, venir chez ses beaux-parents pour voir la famille, pour s'habituer, pour voir si ça se passe bien. Et puis, elle repart chez elle. Ça lui permet de voir si elle veut vivre avec cette famille-là ou si elle ne veut pas de ce mariage. Et si le mariage est accepté, il y a d'abord la demande de la main. On va demander de la main à la jeune fille. C'est toute cette étape-là. Elle accepte, elle vient, elle habite. On appelle ça Mubombi. Mubombi, c'est l'éventuel futur marié. Si le mariage se fait, là, toute la grande famille se déplace maintenant et on va épouser la jeune fille. On fait la dot, on fait les échanges de ce qu'on peut échanger. C'est retour là à vous expliquer. Et puis après, sa famille vient la déposer. Donc, on a commencé par la naissance, l'adolescence, on est au mariage. Et chez les Nzébi, une vie s'achève, comme toute vie, on meurt. Et à la mort de chaque Nzébi, il y a ce qu'on appelle Ikumbu. Ikumbu se fait après l'enterrement de la personne. Quand la personne a été enterrée, il y a une coutume qui dit que quand un enfant meurt, le père est toujours obligé de payer. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Un père paye toujours... Des dommages toujours la famille maternelle. Alors, c'est peut-être parce que je ne sais pas pourquoi. Là, je spécule là maintenant. Nous sommes matrilinéaires. Donc, peut-être que quand un homme va épouser une femme, il enlève à une famille un membre. Donc, quand ce membre meurt, il faut que l'homme paye. Et pendant Ikumbu, on va faire une espèce de bilan de la vie de cette personne. En fonction de qui tu es, il peut sortir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses positives pour célébrer la vie qui a été celle de cette personne-là. Quand une femme qui a été épousée décède, on doit faire le bilan de sa vie. Et si ça s'est bien passé, on vous dira que ça s'est bien passé. Si vous avez maltraité cet enfant, on vous dira, sa famille va se lever pour dire que vous avez maltraité notre fille. Et à ce moment-là, on peut même dire, ce mariage-là était tellement mauvais que nous interdisons à tous nos descendants de venir se marier avec les gens de votre clan parce que vous n'êtes pas des gens bien. On croit aux esprits des morts, on croit que ceux qui sont partis continuent à veiller sur nous, mais on n'a pas de culte. On continue à les honorer de par la façon de vivre, par exemple, de par les noms qu'on donne. On donne aux enfants les noms de certaines personnes. Donc, la personne continue à vivre à travers les noms. Par exemple, mon père qui a été quelqu'un de très, vraiment beaucoup aimé, il y a beaucoup d'enfants qui s'appellent comme mon père. Donc, il continue, sa mémoire continue à vivre, mais on ne voue pas un culte aux esprits. Mais il y a un moment de l'année où il y a une procession qui se fait dans les villages Nzébi où on va nourrir les esprits, justement. Donc, c'est souvent au moment des premières récoltes. Donc, ces premières récoltes-là, on va les donner en don aux esprits pour les remercier et pour espérer qu'ils nous permettent de pour leur demander des faveurs, quoi. Parce qu'on est toujours liés, ils ont toujours un rôle dans nos vies. Donc, il vaut mieux être bienveillant avec eux pour qu'eux aussi en retour soient bienveillants avec nous. Chez nous, j'observe les gens, par exemple, avant de manger ou de boire quelque chose, ils vont verser une partie de leur boisson par terre. Ils la versent. Ça, c'est pour les esprits. Avant de manger, ils vont prendre un peu de leur nourriture, ils vont la jeter dans la nature pour les esprits. Il y a des gens qui font ça systématiquement. La musique occupe une place centrale. Je vous disais déjà, quand on sort le bébé le matin, chachambre, C'est presque du chanter parler. Les jumeaux sont des enfants sacrés. Et quand naissent les jumeaux, c'est une cérémonie encore plus grande que le chachamble qui se fait. Il y a une procession des jumeaux. Déjà, chez nous, on dit que les jumeaux, on ne leur donne pas de nom. Ils se nomment eux-mêmes. Ils vont venir en rêve chez un membre de la famille avant leur naissance et ils vont leur dire, nous, ils vont donner leur nom. Ils vont dire, nous sommes tel et tel. Donc, les jumeaux étant particuliers, nous avons un répertoire de chants chez les Zébis. Et quand les gens pleurent aussi, quand pleure est mort, vous allez entendre les gens venir chanter, et puis ils vont se mettre à parler. Au niveau autour de la mort, il y a un répertoire particulier. Parce que quand quelqu'un meurt, pour éviter que les gens soient tristes, il y a une cérémonie qui se fait par les petits-enfants. Et elles vont venir se moquer du mort pour détendre l'atmosphère, pour ne pas que les gens pleurent. On va rigoler. Et ça se fait toujours donc la nuit avant l'enterrement. Parce que chez nous, un mort passe une nuit. Vous mourrez aujourd'hui, on vous enterre demain. Il y a des chansons que nous chantons quand nous allons chanter et tout ça. Et on chante tout le temps. Nous avons des contes, on éduque les enfants aussi à travers les contes. Il y a des contes chez nous qui ont des chansons. La musique fait partie de notre quotidien. Cet album s'ouvre d'ailleurs par la chanson d'un conte. Et moi, je la chantais quand j'étais enfant. Mais moi, je n'ai jamais entendu le conte. Il m'est resté de ce conte, il m'est arrivé juste cette chanson. C'est pour ça que le titre de cet album, c'est Réminiscence. Je vous apporte ce qui m'est resté de ma culture. C'est ça la réminiscence, c'est ce qui nous reste de quelque chose. C'est le souvenir de quelque chose qu'on a perdu. Donc ma musique n'est que ça, c'est des réminiscences. En fait, moi j'aime les autres êtres humains parce que j'aime les miens. Moi je veux traiter les autres comme j'aimerais qu'on traite les miens. C'est pour ça que je chante, ce sont ces valeurs-là que je transmets. Et c'est pour ça que ma musique n'est pas tellement du divertissement, c'est vraiment plus de la culture. Parce que même dans les textes, quand vous allez dans les textes, je dis ce genre de choses. Je vous ai dit qu'il y a un rituel qui s'appelle Bouiti chez nous, les gens s'initient. Et dans le Bouiti du Gabon, nous avons un instrument, c'est la sitar, la gabonaise. Et c'est une sitar qu'on ne voit qu'au Gabon. En fait, cet instrument-là, on ne le rencontre pas n'importe où. C'est un instrument, il n'est joué que par des gens qui ont été initiés au Bouiti ou qui sont proches de ça. Il y a un lien entre le monde des vivants et le monde des morts dans la sitar. Et puisque ce conte, je ne l'ai plus, moi j'ai appelé ce joueur de sitar qui a joué et j'ai voulu de cet instrument pour que la sitar symbolise le conte que moi j'ai perdu. Je parle de mon pays, du Gabon, parce que là, on a beaucoup parlé de la société traditionnelle gabonaise, mais il y a la société, j'allais dire, institutionnelle, la société étatique gabonaise, qui est une autre société avec d'autres types de problèmes, avec d'autres choses, j'allais dire, d'autres maux de tête que cette société étatique me donne. Et j'en parle aussi, il y a aussi des chansons qui traînent de ça dans cet album-là encore et dans les albums précédents. Donc, voilà, c'est un album humain. Mais l'humanité chantait en langue zébie, et si je vous la traduis, ben vous allez retrouver exactement l'humanité telle qu'elle est en Europe, en Asie, où vous voulez. C'est un album humain.
Sont tous en cabane, ou à l'armée, ou à l'usine. Ils se sont rangés des bécanes, y'a plus de jeunesse, tiens ça me déprime. Alors pour mettre un peu d'ambiance, dans mon quartier le vieux débris, j'ai groupé toutes mes connaissances intellectuelles. Et c'est depuis que je suis une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes, je me fends la gueule. Je suis le chef et le sous-chef, je suis Fernand le rigolo. Je suis le petit gros à lunettes, je suis Robert le grand costaud. Y'a plus de problème de hiérarchie, car c'est toujours moi qui commande. C'est toujours moi qui obéis, faut de la discipline dans une bande. Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes, je me vends la gueule. je débarque au vitraux du coin, et puis qu'un mec veut m'agresser, ben moi aussitôt j'interviens, c'est beau la solidarité. Quand je croise la bande à Pierrot, ils sont beaucoup plus nombreux, ça bastonne comme à Chicago, c'est vrai que dans sa bande ils sont deux. Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul, je suis une bande de jeunes, je me prends la gueule. Dans ma bande, y'a du rififi, je me téléphone, je fais une bouffe, je fais un colloque, je me réunis, c'est moi qui parle et c'est moi qui écoute, parfois je m'engueule pour une soute.